franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, une étude qui bouscule le monde de la recherche en psychologie, puisqu'un collectif international de 270 chercheurs a tenté de vérifier la reproductibilité de 100 études considérées solides dans le domaine de la psychologie. Et il publie donc ce collectif ses résultats dans la revue Science, et ses résultats sont loin d'être bons, puisque presque deux tiers des études n'ont pas pu être reproduites par les chercheurs. Pour en parler, nous sommes en ligne au téléphone avec vous, Christian Lorenzi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie expérimentale et directeur des études scientifiques à l'ENS Paris. Il y a un vrai problème donc pour la recherche en psychologie, Christian Lorenzi, face à de tels résultats, c'est ce qu'on constate. Hein.
Oui, c'est un vrai problème dont la communauté commence à prendre conscience. Toutefois, je veux en passant noter que les deux études françaises qui ont été incluses dans ce projet ont été répliquées.
Ce
problème est certes pour partie lié à un usage inadéquat de l'outil statistique, ça c'est clairement identifié, mais également à des fragilités dans la construction des protocoles expérimentaux, trop faible taille des cohortes, faible contrôle du matériel. Mais, et c'est ce point que je voudrais souligner, ce problème de réplicabilité est également lié au trop rare recours à des prédictions guidées par des modèles quantitatifs des mécanismes étudiés. Ceci dit, plusieurs branches de la psychologie, et je veux citer la psychologie expérimentale et cognitive, sont maintenant dotés de modèles quantitatifs. Mais les autres branches de la psychologie se devront de suivre et de promouvoir cette démarche de modélisation.
Mmh. Donc, 270 chercheurs qui travaillaient sur ce projet depuis 2011, donc c'était nécessaire de mener ce travail, invisiblement, en tout cas.
Tout à fait. C'est très important, la communauté en prend conscience et ça devrait amener à modifier certaines pratiques. Je voudrais citer d'autres problèmes quand même rattachés à celui portant sur la robustesse des résultats. Il y en a d'autres, au moins deux que l'on peut identifier. Un problème qui est lié à l'interprétation des données. La part de spéculation qui est inhérente à toute démarche est trop souvent présentée comme une conclusion dans les articles de nos journaux. Et un problème lié à la présentation des données. L'écriture d'un article est trop souvent infléchie en fonction du journal visé, avec une forte tendance à l'amplification du grandiose, si le journal est généraliste. Et ces deux éléments, je pense, peuvent être aisément corrigés pendant les phases d'écriture et d'expertise. Et il revient à notre communauté d'améliorer ses pratiques d'écriture, d'expertise, et enfin de revaloriser les études de réplication extension. Ceci est tout à fait faisable, c'est pour ça que je suis très confiant, moi, quant aux conséquences et aux suites de cette étude.
Axel.
Oui, pourquoi est-ce que la rigueur méthodologique et statistique manque plus aux chercheurs en psychologie qu'aux autres chercheurs ?
Pourquoi est-ce que ce problème s'applique plus à la psychologie ? Je ne sais pas s'il s'applique plus à la psychologie plutôt qu'à d'autres disciplines. Je voudrais que la même étude soit menée dans le domaine biomédical, par exemple, et qu'on confronte les taux de réplication. Je crois que c'est un point sur lequel il faut vraiment que l'étude qui a été initiée soit élargie. Enfin, on doit noter que toutes les disciplines n'ont pas le même degré de maturité. La psychologie scientifique est née il y a 150 ans, approximativement. Ce qui est bien court par comparaison avec les sciences physiques. Donc on peut penser que ces fragilités de la psychologie se corrigeront naturellement avec le temps, à mesure que la discipline mûrit, puis à mesure que ces modèles se développe, s'affine et se corrige.
Christian Lorenzi, il y a un article très intéressant d'ailleurs aujourd'hui dans le cahier Sciences et Médecine du Monde qui montre que ce problème concerne vraiment toutes les disciplines et pas seulement la psychologie dans le domaine de la santé en particulier. Une part des responsabilités justement revient aux revues et à cette course qu'on note aux publications.
Tout à fait, mais il ne faut jamais oublier que les revues, c'est nous, ce sont les chercheurs qui participent aux bureaux éditoriaux, à l'expertise, et qui se devront de repenser leurs pratiques d'écriture en tentant effectivement de contrer peut-être des pressions qui leur proviennent des tutelles, des organismes. Et il faut voir aussi en cela le symptôme d'une crise, effectivement, une crise qui est liée à la perte des moyens et à la fragilité du métier.
Sébastien Moller, vous voyez passer beaucoup de publications. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Christian Lorenzi ?
Ah, entièrement. J'ajouterais simplement peut-être le fait que la psychologie expérimentale, la psychologie cognitive, c'est quantifier l'humain. Donc l'humain,
c'est pas la complexité. Hein.
C'est pas comme un gaz d'hydrogène. Il y a quand Boltzmann a fait la thermodynamique il y a 150 ans, un gaz d'hydrogène qui se détend dans un piston, que ce soit à Bangkok, à Paris, c'est toujours le même comportement. Un être humain, il a son passé, il a sa sensibilité. Alors quand vous avez des cohortes trop petites, évidemment, la variabilité des résultats est complètement amplifiée. Et je pense qu'il faut des outils d'autant plus rigoureux dans ce cas-là. Mais moi, ce que cette étude m'inspire, c'est une sorte de bouffée d'oxygène, parce que ça nous rappelle ce qu'est l'essence de la démarche scientifique. Contrairement à la pensée magique, à la croyance, la démarche scientifique, c'est douter systématiquement. C'est ce que nous a dit Descartes dans son discours de la méthode, ce qui est le fondement du cartésianisme moderne. c'est qu'il faut sans arrêt remettre en question ce qu'on croit acquis. Et finalement, c'est ce que fait cette étude. Elle nous rappelle qu'il faut jamais prendre un résultat pour acquis. Mmh. Et si on réfléchit à la façon dont les scientifiques travaillaient peut-être il y a un siècle ou deux, on prend l'exemple de Darwin quand il a établi sa théorie de l'évolution. Ce qu'il a fait pendant des décennies, et on le lit dans ses écrits, c'est qu'il s'est efforcé de démontrer que sa théorie était fausse. Il l'a combattait, il essayait de la remettre en question sans arrêt. Mais il a eu le temps de faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, des chercheurs qui font des demandes de financement pour 2 ou 3 ans ont le temps de dire « je vais mettre en question ma théorie pendant 10 ans jusqu'à avoir assez de résultats reproductibles ».
Allez, je poursuis un petit tour de table parce que je vois que mes invités sont intéressés pour réagir. Fabien Fenouillet, évidemment, vous qui êtes professeur de psychologie cognitive.
Oui, non, j'allais faire la même remarque. Effectivement, je pense que c'est, il faudrait s'intéresser aussi à ce qui se passe dans les autres sciences. Je pense qu'effectivement, ce type de constat, à mon avis, peut s'arrêter à d'autres disciplines comme la médecine. Je crois qu'il y a des articles qui sont pas en médecine qui faisaient à peu près la même
constat. La proportion, c'était la moitié l'année dernière. On avait fait un chiffre, étude sur deux.
Voilà, donc c'est à peu près pareil. Après, quand on dit les études sont pas fiables, sont pas réplicables, ça dépend de quelle étude on parle aussi. Il y a des études qui sont très très solides. C'est-à-dire qu'on, justement, il y a des études qui sont tellement surprenantes que on va commencer par s'interroger sur la réplicabilité de l'étude, hein, au-delà des statistiques, pour savoir si vraiment elle était le résultat turn out. Donc je pense que c'est vrai, si on prend n'importe quelle étude, je veux dire, où il y a des résultats qui apportent des données complémentaires, mais si on est sur une étude princeps, là je pense que ça doit être beaucoup moins vrai, ou alors je serais très étonné.
Alexandre Jost.
On a de la chance aujourd'hui parce que notre émission elle est sur le bonheur au travail, et par nature le bonheur c'est un objet tellement complexe, tellement holiste, tellement global, qui va aller chercher dans différentes disciplines. Donc en allant voir dans la neuroscience, dans la psychologie, la sociologie, la science de la gestion, on a donc la chance de s'appuyer sur différents types de protocoles sous-jacents. Et puis une deuxième bouffée d'espoir, c'est que nous en tant que think tank, on est donc une cheville ouvrière qui est à mi-chemin entre la science et le monde, donc le monde
fabrique,
réel.
La fabrique Spinoza.
La fabrique Spinoza, think tank du bonheur citoyen. Eh bien, nous, on cherche des données scientifiques qu'on appelle de type méta-études, des méta-analyses, c'est-à-dire qui vont rassembler un grand nombre d'études, les comparer entre elles et donner des résultats. Et ça nous rassure quant à la tangibilité de nos préconisations.
Christian Lorenzi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est valable dans tous les domaines de la science, c'est l'augmentation de la fraude.
Oui, l'augmentation de la fraude, effectivement, ou méconduite scientifique, peut-être aussi un symptôme de certaines évolutions du métier de chercheur, la manière dont les institutions gèrent les chercheurs, emploient les chercheurs, recrutent les chercheurs, ou suppriment des départements ou des laboratoires. Bon, c'est un fait. Maintenant, comme dans tous les métiers, il y a des codes déontologiques, il y a des règles éthiques, il y a une responsabilité. Dans le métier de la psychologie, je crois que la déontologie est largement enseignée dans les universités. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour améliorer en tout cas la formation de nos étudiants. Le fait est que, en tout cas, les chercheurs, eux, doivent être des modèles irréprochables lorsqu'ils forment leurs étudiants. Par exemple, la question de la réplicabilité, la solidité des données que l'on produit, pour lesquelles on apporte la garantie de son nom, de son équipe, etc., eh bien, c'est un problème qui touche celui qu'on évoque et et auquel on doit sensibiliser nos étudiants.
Bon, ben, au moins, la vertu de cette publication, c'est de pouvoir améliorer les méthodes, hein, évidemment. Et c'est ce que vous laissez entendre, Christian Lorenzi. Merci beaucoup pour votre éclairage, en tout cas, suite à la publication de ces études. À bientôt.
Au revoir.
Et puis, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la prise de testostérone entraînerait des modifications cérébrales chez les personnes qui changent de sexe, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université européenne de neuropsychopharmacologie. L'imagerie cérébrale montre que la prise de testostérone dans le cadre d'une mutation sexuelle change les structures internes du cerveau, avec une influence particulière sur le comportement, la connaissance et l'aisance verbale. Le mécanisme de ces changements reste inconnu selon l'étude. Des scientifiques ont découvert le fossile d'une très vieille espèce géante de scorpion de mer. Ce monstre, qui pouvait mesurer près de 2 mètres, vivait il y a 460 millions d'années, était un prédateur très puissant grâce à sa taille. Les membres de l'équipe de chercheurs ont surnommé la bête Pentecopterus, du nom d'un navire de guerre grec ancien, dont les miroirs avaient la forme du fameux scorpion, et l'image de la bête est à découvrir sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis bientôt la fin des glaces qui ne nous couleront plus sur les doigts. Une équipe de chercheurs britanniques a enfin trouvé une solution pour ralentir la fonte de la crème glacée, non pas avec un produit chimique, mais grâce à une protéine d'origine bactérienne appelée BSLA. Elle s'agrippe aux cellules graisseuses et aux bulles d'air, rendant le mélange plus onctueux. Les travaux publiés le 31 août dernier montrent également que les glaces obtenues grâce à cette protéine seraient moins riches en acides gras saturés et moins caloriques. Et c'était important de le préciser.